Luigi, regarde Mario, Princess Peach est sur son balcon. Elle semble observer l'horizon comme si elle attendait son prince charmant.
Luigi, vais-je être capable un jour de lui déclarer mon amour avant qu'il ne se fasse encore enlever par Bowser?
Mario, attends un peu. Le ciel est étoilé, la brise souffle doucement. Les conditions sont donc parfaites. Il n'y aura donc pas d'enlèvement ce soir.
Mais c'est peut-être le calme avant la tempête. Je ne serai donc jamais capable de faire les premiers pas avec elle.
J'ai une idée. Nous nous cachons sous le balcon et comme je suis le cerveau entre nous deux, je lui fais la déclaration d'amour et à ta place, et une fois qu'elle est envoûtée, tu montes au balcon et tu lui sautes dessus.
Il me semblait avoir déjà lu un tel scénario quelque part. Et il me semble parti où elle s'est fait sauter dessus, par contre.
Peu importe. Laisse-moi y aller avec ma poésie. Gentes dames, tu gardes dans tes yeux la volupté des nuits, aux joies inespérées au fond des solitudes. Ton baiser pareil à la saveur des fruits et ta voix fait songer au merveilleux prélude murmuré par la mer et la beauté de mes nuits.
Luigi, pour l'amour du ciel, sois un peu plus simple. C'est quand même seulement Princess Peach ici et non Sharon Stone. Et où as-tu pigé ces vers? Attends que je fasse une recherche Google sur mon iPhone. Ah, je le savais, plagieur. Ce sont des vers d'amour empruntés à René Vivien. Es-tu sûr que c'est toi le cerveau ici, que tu t'y connais tant en drague?
Mario, qui a été le premier amant de Princess Daisy et de Princess Harmony en même temps, et sans même qu'elle ne s'en rende compte?
Moi, toi, et tu t'es fait piéger en les invitant à souper le même soir au même restaurant. Bravo, hein? Et fin des histoires d'amour de grand Luigi.
Alors, c'est la façon dont tu me traites, Ferrero? Je m'épouse. Arrange-toi avec ta princesse qui est juste assez intelligente pour se faire enlever à tous les 3 ans dans un nouvel épisode de la série.
Non, Luigi, ne parle pas! J'ai vraiment besoin de toi, Luigi! Ah, il est parti! Que vais-je faire? Ah, j'ai une idée! Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai.
Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette édition du 15 mars 2010 de Puissance Maximale, votre magazine sur le monde du jeu, votre magazine d'intérêt ludique. Mon nom est Vincent Langlois et ça fait déjà 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé live un lundi. Je suis en compagnie de toute l'équipe de Puissance Maximale et j'ai nommé Christian Lacroix.
Hey, salut.
Salut Christian. Également, nous avons Francis Rodrigue qui est avec nous aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Et à la console, nous avons Guillaume Foran.
Salut tout le monde.
Alors, une émission extrêmement chargée aujourd'hui. Encore une fois, on a Christian et Francis qui vont faire leurs chroniques respectives. Francis, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
En fait, cette semaine, un petit changement. Il n'y aura pas la chronique Oldie contre Newbie comme à l'habitude. Cette semaine, je vais apporter un petit débat envers nous et aussi même les personnes s'ils veulent nous parler sur Facebook. En fait, le débat que je vais vous apporter, c'est les nouveautés et les nouveaux jeux d'anciennes séries ou les remakes. Est-ce que c'est une poule aux œufs d'or ou des échecs?
D'accord. Christian, de ton côté?
Ben, je vais parler un peu de mes impressions du PS Move, donc PlayStation.
PS Move, qui ressemble un peu à ce qu'on peut avoir avec la Wiimote et en fait, compte tout ce qu'il y avait de...
Puis le projet Natal, on pourra parler de tout ça.
Ah, projet Natal, bien sûr. Excellent. Nous aurons également Valérie Harvey qui sera en entrevue avec nous, viendra chanter quelques chansons d'intérêt, en fin de compte, qui ont rapport au jeu, parce que je fais des chansons sur des reprises japonaises. Et nous irons, en fin d'émission, retrouver Gabriel du NT2, comme on fait à tous les mois. Il va nous parler d'un livre qui est sorti sur les 25 jeux qui ont été les plus marquants, en fin de compte, qui ont changé le monde jeux vidéo. Et c'était le tour de table, et en introduction, je voulais juste mentionner que c'était un hommage à Mario, si vous avez bien compris, et vous avez sûrement ri beaucoup. Alors, on y va tout de suite avec une pièce, Guillaume.
Oui, donc ça va être la chanson thème de Street Fighter 4 qu'on va attendre de Next Door.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA, et c'est maintenant l'heure du débat que Francis nous amène. Francis, tu peux introduire avec ta question piège?
Oui, bien c'est ça en fait. Je voudrais parler de ça avec tout le monde qui nous écoute, nos auditeurs, et aussi avec les gens ici au studio. Dans le fond, les suites de jeux qui sont déjà sorties ou les remakes qui ont été faites, vous, personnellement, qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que c'est une poule aux œufs d'or? Est-ce que c'est un échec? Ou comment vous trouvez ça, vous, personnellement? Non.
Ben moi, je trouve que c'est un échec de l'imagination parce que c'est comme si on n'ose pas faire des nouvelles franchises. On en fait, mais on préfère reprendre des thèmes qui ont déjà été faits, puis on fait un remaquillage de tout ça. Bon, un empaquetage, le nom est connu, ça va vendre. Moi, je trouve que c'est vraiment...
Un échec de la création. Ouais, je trouve ça quand même... je trouve que c'est une bonne façon de le dire parce que, bien sûr, si on parle de jeux vidéo, bien sûr, on prend à peu près les mêmes bases. T'sais, on sait qu'en jeu vidéo, on a une base solide au départ qu'on prend pour créer, que ce soit un jeu de Call of Duty ou que ce soit un jeu de Mario. Et c'est vrai que c'est comme si on n'innovait pas assez à ce niveau-là.
Mais il y a une exception, par contre, c'est les jeux de rôle. Si, par exemple, il sortait, Baldur's Gate, pour ceux qui ont connu la série, oui. Moi, j'ai adoré ça. Si un jour, je pense pas qu'il le fasse, mais s'il faisait un Baldur's Gate 3, ça serait probablement une continuité de ce qu'on a connu. Alors là, c'est pas vraiment un remake dans ce cas-là. C'est juste la suite. Et là, ça ajoute. Parce que donc, les jeux de rôle, c'est peut-être une exception. déception parce que t'as pas le choix de créer une nouvelle histoire, ça a beau se ressembler. Mais des jeux comme à la Mario, les plateformeurs qu'on appelle, oui. Veux pas, Jack and Dexter, n'importe quoi, oui. Ça, les graphiques sont plus beaux, mais c'est la base reste...
Mais si on prend par exemple un jeu, je pense à Resident Evil. Resident Evil qui est arrivé comme ça, bon, c'était une grosse maison avec les zombies et tout ça. Et on prend après ça ce qui a été fait comme sequel, j'ai le mot anglais, là, malheureusement, désolé, mais la suite, oui. Et moi, je pense que c'était quand même intéressant parce qu'on a développé une histoire, une grande histoire au travers de tout ça qui nous a amené justement à Resident Evil 5 qui sont encore en lien avec les fameux Raccoon City et tout ça.
Oui, c'est vrai.
Malgré que moi, dans un certain sens, j'ai quand même une certaine réticence envers les Resident Evil parce que, veux, veux pas, les trois premiers ont été des classiques. Le 4 a été excellent. Le 5 était tant qu'à moi moyen. Le seul défaut, c'est que je leur aurais pas donné le nom Resident Evil. Comme tu sais, le Resident Evil 5, je l'aurais appelé, exemple, Chris Redfield et la fille quelconque. Tu sais, c'est pas, il y a pas de zombies, il y a pas rien. C'est
non, mais ils ont quand même voulu justement innover. C'est vrai que Resident Evil sans zombies, ça fait quand même bizarre. Il y a comme un peu des zombies dans le 5, oui, qui sont en fin de compte possédés par on sait pas trop quoi. C'est pas les zombies des premiers Resident Evil. Non, sauf que tantôt on parlait d'innovation. Moi, je pense que Resident Evil 5 justement a été innovation. Il se passe pas dans la mansion tout le temps. En fin de compte, ça se passe dans un autre pays. Je trouve que c'est quand même très bien. Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est la réponse à ta propre question?
Ouais, ben c'est ça. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus une poule aux œufs d'or que d'autres choses. Parce que moi, il y a un autre exemple que je vais apporter, c'est la série Wolfenstein qui a eu de très nombreuses années, disons 1986, je crois. Oui. Il y a eu le premier qui était Castle Wolfenstein, suivi de Beyond Castle Wolfenstein, qui était l'initiateur des jeux de camouflage comme Metal Gear, aussi surprenant que certains peuvent le penser. Il y a eu Wolfenstein 3D qui a innové les first-person shooters à l'époque Doom, etc. Puis après ça, ils ont sorti Return to Castle Wolfenstein. Mais là, encore une fois, là, on voyait qu'ils commençaient à tirer à sauce, mais c'était pas si pire. Parce que c'était juste Wolfenstein 3D avec des plus gros graphiques puis une histoire en arrière de ça pour couvrir le tout. Mais là, en 2009, ils ont sorti Wolfenstein tout court, qui est juste Wolfenstein, mais qui, tant qu'à moi, c'est ce que j'appelle complètement une poule aux œufs d'or. Là. Je veux dire, ils ont créé un jeu qu'au début, le prototype s'appelait Les Nazis de l'espace, puis en fait, oh, ça serait bien si on l'appellerait Wolfenstein, et voilà, puis ils ont fait le jeu.
J'ai joué à ce jeu-là, puis en tant que fanatique justement des first-person shooters, j'ai vraiment aimé. C'est certain que c'était à la Call of Duty. On rentre dans le tas, puis on élimine les ennemis, tout simplement.
C'est un très bon jeu. Ça, je dis pas contre. Le seul défaut que j'ai, c'est qu'ils ont utilisé le nom Wolfenstein, tandis que c'est... Oui, il y a B.J. Bartowski, qui est le personnage principal depuis le jeu sur Amiga, il y a très longtemps. Mais, je veux dire, là, c'est rendu avec un médaillon qui tire des éclairs, puis on passe à travers des murs, puis on peut faire voler les
ennemis. Il y avait ça qui était assez spécial dans le jeu. Je l'avais mentionné justement à l'époque quand j'avais fait la critique. Là. C'est vrai que c'était assez spécial. C'était quand même intéressant, quand même, ce petit côté-là. Mais c'est vrai qu'on était loin de Wolfenstein, puis là, je comprends ton lien avec la poule aux œufs d'or. Ça veut dire qu'on met un nom, n'importe quoi, sur quelque chose qui n'était même pas à la base destiné à.
Mais c'est un peu, comme en anglais, ils disent un catch-22, là, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire que s'ils changent trop la formule, ils se font accuser de. Oh, on reconnaît plus l'original. Puis s'ils sont trop fidèles, on dit, ben là, pourquoi vous avez refait la même chose? Fait que c'est un peu, quand tu fais une reprise, c'est un peu mal pris. Il faut que tu trouves l'équilibre entre rassurer les anciens, donner des anciens éléments pour que les fans se retrouvent. Puis il y a une autre chose aussi, dernière chose, peut-être que pour moi, de mon côté, c'est que faut se rappeler que c'est un produit, hein, un jeu vidéo. Mm-hmm. Alors donc, ce qui est, dans tous les produits, ce qui est long, c'est de créer une marque. Hein. Donc, une fois que tu as eu un succès, ben, tu as intérêt à. Le gros de l'effort est fait. Après ça, tu as juste à retravailler ta formule, ta recette. Pensons à Halo. Oui. Tu as juste à dire Halo, 2 points, peu importe que tu mets en arrière la liste d'épicerie de Master Chief, mais les gens vont l'acheter, ça va vendre des millions. Les gens vont vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa liste d'épicerie à Master Chief.
Non? Tout à fait. Mais en fin de compte, on peut faire le lien du jeu vidéo avec celui du cinéma. Hein. Aussitôt qu'on a une.
Ça, c'est le meilleur exemple qu'on peut donner.
Une suite, ça va sûrement être parfait. Souvent, le deuxième, on n'en parle pas. Puis là, le troisième relève. En tout cas, ça dépend toujours des séries. Mais on peut vraiment faire le lien avec ça. Puis au cinéma, les histoires sont pas toujours intéressantes non plus au deuxième et au troisième numéro du. De Rambo. Ouais, ben, de Rambo, oui, c'est ça. Rambo est un très bon exemple.
Mais des fois, ça arrive aussi. Il y a une affaire aussi qui est rattachée souvent à ça. C'est les titres qu'ils donnent, qui peuvent justement, des fois, qui peuvent créer une certaine confusion. Si on regarde côté film, admettons, on regarde justement Rambo. Il y a eu Rambo 1, après ça, il y a eu Rambo 2, il y a eu Rambo 3, puis il y a eu John Rambo. Là, c'est-tu le premier, c'est-tu le dernier? Nous autres, on le sait parce qu'on a vécu avec les trois premiers, mais quelqu'un qui décide, tiens, je vais commencer la série, qui commence avec John Rambo, il va être perdu ben raide. Là.
Ah, c'est sûr, mais c'était pas un grand film non plus. Là.
Non, définitivement, mais quand même, celui qui veut l'écouter au complet. Là.
Ils ont essayé de faire un Rocky Balboa avec John Rambo, mais c'était pas vraiment la même affaire. Alors, merci d'avoir lancé le débat. Vraiment, est-ce que c'est une poule aux œufs d'or ou est-ce que ça vaut la peine de faire des suites? Je pense que la question sera pas vraiment résolue aujourd'hui.
Puis tu disais qu'on pouvait poursuivre le débat sur Facebook.
Oui, bien, en fait, c'est que s'il y a des gens qui veulent commenter là-dessus, vous pouvez rajouter Francis Gaétan Rodrigue, qui est mon nom, finalement, pour en parler. Il n'y a pas de problème. Puis, je vais pouvoir vous répondre avec grand plaisir.
On n'est même pas amis Facebook. Il va falloir qu'on fasse ça. Oui,
il va falloir qu'on devienne ton ami sur Facebook.
Oui, on fera des débats. Mais c'est vrai que d'habitude, on invite les gens à participer en direct à l'émission, soit par le site Facebook. Quand François, oui, justement, est à la console, Guillaume ne s'est pas introduit dans l'ordinateur comme... Avec son compte Facebook. Donc, c'est impossible de nous rejoindre, à moins que vous le fassiez par téléphone. Mais Guillaume est pas mal dans le rush présentement. Il n'aura pas le temps de répondre au téléphone aujourd'hui. Mais il peut toujours nous laisser des commentaires. Je vous rappelle que le site Internet de Puissance Maximale est le www.puissancemaximale, avec un E, bien sûr, .com, et sur lequel vous trouvez de l'information, des nouvelles, et également nos emails, nos adresses courriels pour nous contacter. Et on reçoit à chaque semaine des tonnes et des tonnes de courriels. Christian aime ça également quand vous lui écrivez. Et il me rappelait ça justement en fin de semaine. Il me disait qu'il avait vraiment trouvé que la semaine avait été incroyable. Il ne peut plus arrêter de lire ses courriels. Donc, continuez à lui envoyer. Il est très content de ça. Et la prochaine chanson, c'est toi, Francis, qui me la présente, je crois. Avec peut-être en duo avec Guillaume, si vous ne voulez pas vous battre, les gars.
Non, définitivement. Ben, en fait, la prochaine mélodie qu'on va entendre, ça va être la chanson « Devil Never Cry ». Dans le fond, la mélodie principale, « Devil May Cry 3 », qui est en fait une demande spéciale d'une de nos auditrices qui était aux États-Unis. Donc, je voudrais saluer Amber, qui nous écoute. Donc,
tu connais Amber, toi?
Oui, définitivement.
Mais écoute, c'est des surprises.
Il y en a plusieurs.
Est-ce que c'est une de tes amies Facebook?
Non, c'est une de mes amies tout court.
OK.
C'est des vrais amis, c'est pas sur Facebook.
Non, c'est ça. T'as bien raison. Alors, Devil May Cry, la chanson pour Amber.
Et juste avertir comme ça, c'est pas nécessairement une mélodie.
Ça, c'est vrai.
Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale. All your bases are
belonging to Christian LaCroix. Hey, oui! Salut Christian!
Salut!
Alors, c'est le temps des nouvelles.
Oui, ben c'est ça. Là, je vais vous parler de... Bon, j'ai pas vraiment de chronique très, très profonde aujourd'hui, mais j'ai des nouvelles. Je pense que la grande nouvelle d'il y a deux semaines, déjà, c'est un peu... ça commence déjà à refroidir, mais quand même, il faut en parler, je pense. C'est, on n'était pas en onde là, les deux dernières semaines. Mais c'est donc PlayStation qui n'a pas attendu le E3 pour nous présenter son PS Move, donc qui est un peu la... La réponse au projet Natal et puis évidemment à la Wii Remote.
Toutes les innovations qu'on peut faire maintenant avec les jeux, là, ça...
C'est pas nouveau, hein, la Wii le fait depuis des années. Donc, de ce côté-là, ça a beaucoup moins d'impact que ça aurait eu avant. Et on a aussi, mon collègue Francis me faisait remarquer qu'il ne faut pas s'attarder à l'effet, parce que leur démonstration était très impressionnante. Moi, j'y trouvais, en tout cas. Je trouvais qu'à la précision des mouvements, on le voyait jouer au ping-pong, faisait des effets sur la balle, il y avait des... je trouvais que c'était assez précis, assez impressionnant. Mais Francis me faisait remarquer, ouais, mais on avait le même effet avec la Wii, on avait l'impression que ça serait... C'est quoi le jeu que tu me mentionnais, Red Steel?
Ouais, ben en fait, il y avait Red Steel qui est annoncé au début de la sortie de la Wii. Là, dans l'annonce, je sais pas si vous vous souvenez, on se battait à l'épée contre quelqu'un, puis à la fin du combat, finalement, on voyait le personnage qui tenait l'épée en dessous de la gorge de son ennemi. Là, tu voyais qu'il tournait la manette dans l'écran, ça tournait l'épée, puis on disait « Wow, ça va être génial! Mm-hmm. » Mais quand le jeu est sorti, évidemment, c'est le premier jeu que je me suis procuré, puis finalement, on fait juste secouer la manette, puis il va attaquer d'une manière aléatoire d'un côté okay. ou de l'autre. Là, ça suit pas les mouvements du
fait
tout.
Tu pourrais la donner à ton chien, puis tu le fais brasser à la tête, puis tu auras le même effet. Là.
Exactement.
Ouais, mais c'est un peu ça qui est arrivé justement avec la Wii. Si on prend la Wii Fit, moi, elle m'avait promis que je perdrais 20 livres, puis je l'ai jamais perdu, le 20 livres. Alors...
Ouais. Donc, déception en vue, peut-être. En tout cas, donc, il y a, pour près de 100$ à l'automne, on nous annonce qu'on va avoir la caméra, une manette comme ça, là, double, là, et avec un jeu aussi. Mais quel sera le jeu? Moi, ça dépend du jeu. Là. Si c'est juste les petits jeux, là, démos qu'on voyait, là, moi, ça va prendre un jeu qui a un peu de contenu. Là.
Bon, ça paraît pas, mais je pense que Nintendo reste quand même en avance sur les autres à ce niveau-là. Oui, oui, ils ont déjà sorti la technologie bien avant. Oui. Ils sont en avance. Ils ont sorti le Wii Motion Plus, qui est sorti il y a quelques mois de ça. Là,
oui, donc quelques-uns quand même sont déçus, il faut dire. Oui,
c'est peut-être décevant, puis c'est vrai que la Wii peut être décevante en partant encore au niveau graphique. On l'a dit depuis le début que ce ne sera pas la console la plus hot au niveau du graphisme, mais... Je pense que ça reste quand même une console intéressante encore.
C'est ça. Bon, là, il restera à voir aussi comment Xbox, comment Microsoft va mettre de l'avant son projet Natal. En tout cas, tout ça est à suivre, mais on a eu des nouvelles pour le Move qui s'en vient à l'automne. Donc, ça va être un suivi probablement à l'automne lorsqu'on l'aura essayé.
Alors, on va essayer ça, c'est certain. Peut-être qu'on va l'avoir même en avance, vu qu'on est des privilégiés, nous, ici.
Sûrement.
On ne sait jamais.
On va essayer de tirer les bonnes ficelles.
Super. Ben, merci beaucoup, Christian.
Voilà.
Et c'est bien mieux. Maintenant, le temps d'introduire notre invité aujourd'hui, qui est Valérie Harvey. Si vous ne la connaissez pas, mais ça se peut, elle fait partie du duo Yume, qui en japonais signifie rêve. Donc, c'est un duo, bien sûr, composé de deux personnes. Deux amants de la musique, Valérie, qui est ici, chanteuse mezzo-soprano, et Philippe Arsenault, qui est guitariste, pianiste et choriste. Bien, ce duo-là est né d'un rêve que les deux avaient, de partager la musique. Et, bien sûr, nous avons la chance d'avoir Valérie avec nous aujourd'hui. Bonjour, Valérie.
Bonjour.
Valérie est ici. On va faire une petite entrevue, mais juste avant, elle va nous chanter une de ses pièces directement, en direct ici, dans les studios de Puissance Maximale. Et on va y aller dans quelques instants.
言葉に泳いだ。
月が揺れる鏡に震えた心を星が流れこぼれた柔らかい涙素敵だね二人手を取り歩けたなら行きたいよ君の街へ腕の中その胸から
simplement, wow, hey, c'était vraiment, moi j'en ai eu des frissons, ça m'est passé à travers tout le corps, là, c'est incroyable.
N'est-ce pas beau, c'est le titre de la chanson.
Si, ben oui.
Et oui, dans un japonais totalement parfait, moi qui le parle.
Merci, merci.
Mais non, je parle pas japonais du tout, mais Valérie, c'est vraiment impressionnant, je veux dire, ta passion pour le Japon, est-ce que c'est venu tout simplement par le fait que t'es une amateur de jeux vidéo ou quoi, là, c'est, ou des animés, ou comment c'est venu tout ça?
C'est sûr que c'est pas très loin. J'aime beaucoup les mangas, oui, en effet, j'aime beaucoup les jeux vidéo. Mais reste que c'est venu principalement par les langues. J'étudiais l'anglais, l'espagnol, l'italien, un petit peu l'allemand, un petit peu, bon, tout ça. Mais je faisais juste des explorations. Puis j'ai dit, bon, je vais prendre un cours de japonais. Puis je suis tombée vraiment en amour avec la langue, donc j'ai continué. puis j'ai tout oublié les autres. Mais ça reste que j'adore beaucoup, j'aime beaucoup la prononciation du japonais. Puis pour moi, souvent, pour voir si j'aime vraiment une langue, je vais essayer de la chanter. Donc, j'ai essayé en japonais. J'ai commencé par des chansons de dessins animés, j'ai commencé par des chansons de jeux vidéo. Donc, celle-là, c'est tirée de Final Fantasy X. Donc, c'était mes essais au début. Puis finalement, bien, la passion fait que ça a été... j'ai commencé même à composer en japonais. À l'époque, je faisais traduire. Donc, j'écrivais en français, je faisais traduire en français, en japonais.
Et là, est-ce qu'on parle à l'époque, est-ce que tu parles avant la création du duo Yume ou c'est venu tout ensemble, en fin de compte?
C'est, en fait, ma première chanson, elle était en japonais.
OK.
Parce que je trouvais ça extrêmement gênant que les gens comprennent mes paroles. Parce que je me disais, ils vont juger, ils vont dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est pas bon », ou ils vont dire « C'est-tu vraiment ça qu'elle pense? Ça y est-tu arrivé à elle? » Donc, je me disais, en japonais, je suis sûre que personne de mes amis, personne de ma famille va comprendre. Maintenant, ben, je suis un petit peu mal pris parce qu'on chante aussi au Japon.
Ouais, c'est
les
ça.
Chansons en japonais, là-bas, ils les comprennent très bien. C'est celles en français qu'ils comprennent
tout
pas. Mais pour moi, ça a été une façon peut-être d'être moins gênée en partant parce qu'on comprenait moins ici. Puis après, ben, tout de suite, les chansons en français sont venues. Là, ça s'enchaînait rapidement.
Mais est-ce que le message que tu passes en japonais, est-ce que, pour l'avoir expérimenté, j'imagine, au Japon, est-ce que c'est le même message que les Japonais, eux, auraient à lancer? Est-ce que c'est la même culture? Parce que c'est quand même une culture différente. Est-ce que tu penses que c'est compris de la même façon? Ou?
Oui, je pense que les grands sentiments comme l'amour, la tristesse,
tout le monde
la
les
colère,
ressent de la même
on les
façon.
Ressent à peu près tout de la même façon. On ne les exprime pas nécessairement de la même façon. Mais il reste qu'on va les sentir là, pareil. Donc, c'est ça que mes chansons parlent.
Parle-nous de Yume, ça existe depuis combien de temps?
Mon Dieu, la première chanson, 2000 ans. Donc, ça fait 9 ans qu'on compose puis qu'on joue ensemble. Donc, Philippe n'est pas là aujourd'hui. Il avait sa musique, mais
il était on salue.
Nous. Il travaille en ce moment, donc. Mais c'est ça. Maintenant, on a un plus grand répertoire qu'au début, là, où on faisait principalement nos deux compositions du démarrage. Mais je dis que je faisais mes chansons en japonais, mais toutes les traductions étaient déjà sur le site web. Là. Tu sais, j'étais pas si pire que ça.
Tu me parlais rapidement, tu as fait un petit lien avec le jeu vidéo. Tu es une amateur de jeux en général?
Surtout les jeux de rôle. Donc, c'est sûr que Final Fantasy, Chrono Cross, j'aime bien. Mais reste que j'aime beaucoup regarder Philippe jouer à Resident Evil ou God of War. Mais en ce moment-là, c'est pas moi qui joue. Ben, habituellement, je joue pas. Moi, j'aime bien regarder l'évolution. Puis quand je joue, ben, l'évolution, elle va pas très vite. Donc, je préfère regarder quelqu'un qui joue qui est meilleur que moi puis qui va pas cette année avant la fin. Je suis pas très patiente avec ça.
Et tu disais que, en fin de compte, ta passion pour le Japon est venue par rapport à un cours de langue. Donc, j'imagine que si tu l'as découvert, le Japon, par après, tu es allé vivre là.
Oui, exactement. 5 ans après avoir commencé l'apprentissage du japonais, c'est sûr que ça se développe plus ou moins vite au Québec parce qu'on a peu de Japonais qui habitent ici. Même à Montréal, il y a peu de Japonais. Donc, et puis souvent, on est tous des êtres humains. Donc, souvent, quand on veut communiquer, on va communiquer dans la langue que tout le monde parle. Donc, si c'est l'anglais, on va parler en anglais, même si on n'est pas bon. Si c'est le français, ben hey, on va switcher en français rapidement. Donc, on a beau dire, on va essayer de se forcer. Puis c'est pour ça que quand il y a un couple, il y en a un qui est bilingue dans le couple, puis il me dit, non, finalement, j'ai pas tant amélioré l'autre langue que ça. Je comprends ce qu'il veut dire, parce que dans un couple, c'est pareil. On va toujours essayer de parler la langue qu'on se comprend mieux. Donc, j'améliorais pas beaucoup le japonais. Donc, je suis partie en 2006 avec Philippe. On est allé vivre un an à Kyoto. Toute l'année là-bas, on a vu les 4 saisons. L'hiver, un petit peu difficile. Le printemps, magnifique. L'été, un petit peu difficile. Et l'automne, magnifique aussi. Donc, c'était vraiment une super belle expérience.
Toujours avec Valérie Harvey du duo Yume. Valérie, en fin de compte, tu parlais des sons du japonais, tout ça. Qu'est-ce qui t'a attiré vraiment vers cette culture-là? Bien sûr, la langue, oui, les sonorités, mais en tant que culture, qu'est-ce qui t'attire vraiment au niveau du Japon?
Ben, le Japon, c'est vraiment l'exotisme. C'est l'autre bout du monde. Là, t'as une belle carte du monde là, dans ton studio. Là,
oui.
Ben, on voit bien que le Québec, c'est complètement à l'envers de la terre par rapport au Japon. Fait que c'est ça qu'il y a quelque chose qui est très attirant dans ça. Au début, ce qui m'intriguait le plus, c'était les différences du japonais, là, de la personne, de la culture, l'interaction, des habitudes, de la bouffe aussi. Donc, tout ça, ça m'attirait beaucoup. Puis finalement, quand je suis allée vivre là-bas, je me suis rendu compte que, comme je te disais tantôt, ça reste qu'on est tous des êtres humains. Puis ça, c'est merveilleux de s'en rendre compte. C'est tellement rassurant que la gentillesse est partout, puis que oui, OK, la politesse est différente là-bas, puis elle est très, très développée, beaucoup plus qu'ici, je dirais. Mais il reste que on veut tous on veut tous vivre des belles choses ensemble. On a tous de l'humour. Même si on nous dit de ne pas trop utiliser l'humour, que c'est des codes culturels qui sont très particuliers à chaque pays, c'est vrai. Mais en même temps, on aime tous rire. Fait que s'il faut que l'humour soit, on va mimer puis on va faire des choses comiques, ben on va le faire. Puis moi, je trouve que c'est une bonne façon d'entrer en lien avec une personne. Donc, je me suis rendu compte que les Japonais n'étaient pas si différents que je l'imaginais, que le Japon, il y avait des points communs, ce qui est très rassurant parce que t'es quand même à l'autre bout du monde. Donc, ça te rassure de te rendre compte qu'il y a des choses qui nous ressemblent. Puis ensuite, ben, tout le reste, tout ce qui est différent, ben, tu l'abordes d'une autre façon. Ça devient juste des curiosités. Puis tu veux le comprendre. Donc, c'est tout à fait... C'est très, très, très intéressant.
Puis c'est quand même une société aussi en mutation, il faut dire, hein, avec les anciennes générations versus les nouvelles. Il y a un fossé assez important.
Oui, beaucoup. Ben, c'est sûr que les anciennes générations reprochent aux nouvelles d'être moins polies, de savoir moins bien parler. Les distinctions de genre aussi entre les femmes et les hommes changent énormément. C'est une culture qui s'améliore un petit peu plus américanisée qu'avant, je dirais aussi. Ils ont pas tellement peur que l'anglais entre dans leur langue, donc ils intègrent toutes deux mots qui vont changer, là. Ils vont les japoniser, mais il reste que c'est très différent le rapport à l'anglais, le rapport aux États-Unis. Mais ça aussi, je trouve que c'est une... Quand on va là, on se rend compte qu'ils réagissent comme ça, puis ça nous fait réfléchir par rapport à comment nous, on réagit, puis pourquoi on réagit comme ça. On essaie de comprendre un peu mieux le Québec, je pense, quand on est au Japon ou n'importe où ailleurs dans le monde. En fait, moi, j'ai beaucoup plus appris sur le Québec, je pense, que
autant
que sur le Japon. Oui, parce que puis là, je comprends bien les immigrants, des fois, qui ne veulent pas se séparer de ce qui fait leur distinction, puis je ne suis pas d'accord avec ça non plus, là, mais je veux dire, à quelque part, je le comprends, le sentiment. Ça devient tellement important pour toi, ton pays, quand tu es à l'extérieur. Mm-hmm. Là. Fait que tu t'accroches à tout ce qui est toi, donc, ce que tu ressens comme toi, jusqu'à temps que tu deviennes acclimaté là, comme il faut.
Et Valérie, cette passion-là t'a amené vers des études graduées, même l'écriture d'un livre. Peux-tu nous en parler un peu?
Oui, bien, pendant que j'étais là-bas, j'ai écrit un blog que je tiens toujours. Donc, moi, je faisais un blog de voyage et j'ai été particulièrement productive pendant que j'étais au Japon. J'ai écrit 83 chroniques. J'ai mis aussi beaucoup de photos. Puis, quand je suis revenue, j'ai commencé à faire des conférences dans les écoles. Puis, ça m'a amenée à avoir beaucoup, beaucoup de questions parce que je faisais des conférences de maternelle jusqu'à l'université. Fait que vous devinez qu'il n'y a pas eu exactement les mêmes questions. L'université, on ne posait pas les mêmes choses qu'en quatrième année. Mais il reste que j'avais beaucoup de réponses à apporter. Ça me tentait. Je voyais que ça revenait. Je vois qu'il y avait une belle curiosité sur le Japon. Il y avait vraiment de l'intérêt. Donc, j'ai eu le goût de répondre en plus de mes chroniques. Donc, j'ai fait un amalgame. J'ai pris les chroniques. J'ai recomposé tout ça. Puis, j'ai voulu aussi faire des thèmes donc sur la langue. Il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations sur le japonais en tant que tel. Donc, j'ai essayé de faire un chapitre juste là-dessus. Donc, j'ai écrit un livre qui est publié, ça fait depuis le 23 février. Donc, c'est tout récent. Chez Amac Carnet, qui est les éditions Septentrion. Puis, ça s'appelle Passion Japon. Donc, là-dedans, vous allez retrouver un chapitre sur la musique, un chapitre sur les arts. Donc, je parle des dessins animés. Je parle pas beaucoup des jeux vidéo, par exemple. Ben, peut-être pour un prochain tome.
Ça pourrait, ouais.
Oui. Surtout que j'en ai à dire aussi là-dessus. Ensuite, chapitre sur le japonais, un chapitre sur les japonais en tant que tel, sur les saisons, sur les villes, sur la bouffe. Donc, vraiment, on a des chapitres sur tout pour répondre aux principales interrogations. C'est pas un carnet de voyage dans le sens que je donne pas de lieu précis où tu dois aller visiter telle place. Ça, je le fais sur le site web. Donc, si on veut, sur le site web, j'ai fait un PDF de 16 pages avec des photos, puis là, ben, si on veut aller, c'est plus précis. Mais ça, c'est vraiment une découverte, une initiation. Puis ceux qui connaissent déjà le Japon, ben, c'est aller un petit peu plus loin, parce que c'est ça, je raconte mon expérience là-bas, mes aventures et mes erreurs de japonais, entre autres.
Puis le livre aussi va mieux vieillir, peut-être, en faisant ce choix-là.
Exact.
Parce que quand on met des adresses ou des fois, 10 ans après...
Oui, c'est vrai, ils sont plus jeunes,
c'est la même chose. 3 ans après, ouais. Hein, ça vieillit très, très rapidement. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai retiré tout ce qu'il y avait de ce rapport-là. Puis le PDF, lui, je peux le mettre à jour sur le site web.
En terminant, revenons à Yume. Si jamais, je ne sais pas, est-ce que vous faites des performances parfois pour du corporatif ou est-ce que si jamais il y a des gens qui veulent vous contacter, comment qu'on le fait?
Ben, on a un site web, donc c'est Yume, donc yume.qc.ca. Donc, oui, en effet, on fait des performances. Là, c'est sûr que je pars pour le Japon dans 2 semaines, pour 3 mois. Donc, il y a quelques événements qu'on va manquer et qu'on ne pourra pas participer. Mais dès le retour, on a déjà des choses de prévues. Donc, on va être à Cap et Kimono, par exemple.
Oui,
donc,
à l'automne.
Exactement. Donc, c'est des beaux événements comme ça. On adore participer, chanter en japonais. On chante aussi en français, donc...
Mais c'est super. Alors, c'était Valérie Harvey du duo Yume. Et Valérie va terminer avec une pièce. Merci beaucoup d'être passée à Puissance Maximale.
Merci beaucoup de m'accueillir. 日が暮れてこの葉がそよぎ夜の風が昼を追い払う花が輝き草は香ばしく木々はラブストーリーを語る私はあなたを待っている夏の真っ只中で心の嵐雨は私の涙あちこちで人が歩き回る家があり子供たちは学校へ時は滑り波は日は女で海はラブストーリーを語る私はあなたを待っている冬の心は凍りつき雪は私の涙あなたを探し回るあなたを呼ぶあなたの名前を叫ぶ私は一人世界の真っ只中で時が過ぎゆくここに留まり泣いてる私泣いてる私泣いてる私
Super! Vraiment, là, c'est impressionnant. Merci beaucoup d'être passé.
Merci.
Et Guillaume, on va y aller avec la chanson de Musax tout de suite.
Effectivement, on va y aller avec la chanson de Musax, donc Zone of the Enders. Le Second Runner prend place au 22e siècle, époque où les Terriens ont colonisé plusieurs planètes. Zone of Enders met en scène un conflit entre les Terriens et les habitants des planètes colonisées, les Enders.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
De retour sur les ondes de CKIA et c'est maintenant le temps d'aller rejoindre notre collaborateur au NT2 en direct de Montréal, c'est Gabriel Tremblay-Godette. Bonjour Gabriel. Et peut-être, c'est de la radio en direct, peut-être qu'il y a un petit quelque chose, broadcast ou peut-être qu'il n'est pas en ligne. Alors Gabriel, est-ce que tu es là?
Allô?
Oui Gabriel, on t'entend. Tu m'entends très bien?
Ah, ça va très bien.
Excellent, parfait. Donc Gabriel, aujourd'hui tu nous parles du livre Vintage Games, qui énumère possiblement avec d'intéressants détails les 25 jeux les plus fondamentaux de l'histoire des jeux vidéo, c'est bien ça?
Oui, en fait, ce que les auteurs ont pris le pari de faire, c'est de d'introduire aux jeux les plus importants dans l'histoire du jeu vidéo en choisissant 25 titres, donc des titres qui vont de Flight Simulator à John Madden Football, en passant par Myst, Diablo et Doom. Donc les jeux représentent à la fois des étapes importantes dans l'histoire du jeu vidéo et dans le développement des technologies et des designs, mais aussi ils sont représentatifs des différents genres de jeux vidéo qu'on peut retrouver même à l'heure actuelle.
Oui, justement, si on parle par exemple de Alone in the Dark qui est sorti en 92, j'ai vu que ça faisait partie de la liste par exemple au premier chapitre. Bien sûr, c'était le précurseur de bien des jeux de séries semblables.
Oui, ben en fait, c'est intéressant pour des pour n'importe quel type de joueur, que ce soit des débutants ou des joueurs avancés, surtout des joueurs plus jeunes qui connaissent pas vraiment l'histoire de leur médium et de leur divertissement préféré, parce qu'effectivement, il explique comment Alone in the Dark a été très important pour le développement du jeu de survie d'horreur. Donc, c'est sûr que ça peut être un peu difficile pour des joueurs qui n'ont jamais joué à ces jeux-là de concevoir qu'on a pu avoir du plaisir à jouer à ces vieilles affaires-là, parce que vu qu'on a des captures d'écran, des fois, on voit que c'était pas très beau, qu'il y avait des pixels en masse. Même moi, dans mon cas, en fait, il y en a la plupart d'entre eux. J'ai déjà joué à un moment ou à un autre et je garde d'excellents souvenirs dans ma mémoire de ces jeux-là. Mais quand je vois les images, je me dis à quel point est-ce que j'ai pu avoir du plaisir, parce que c'est vraiment... C'est très apparent là, qu'on n'est pas dans la grosse technologie 3D malade.
Oui, mais bien sûr, regarde, je regarde un peu la liste rapidement. Là, on a des jeux comme The Legend of Zelda, on s'entend que ça a été précurseur également. Les Mario Bros, Super Mario aussi. Donc oui, quand on regarde ça aujourd'hui, c'est certainement pas la plus grande qualité visuelle qu'on a, mais ça reste quand même que la jouabilité ou le gameplay, comme on dit en anglais, était là à l'époque.
Oui, ben en fait, c'est sûr que quand on compare avec les jeux de maintenant, c'est sûr que ça tient pas la route, mais moi, en fait, il y a pas longtemps, en zappant en télévision, j'ai vu le film Jumanji, qui est pas très bon par ailleurs, mais qui à l'époque, on dit « Ah, les effets spéciaux étaient incroyables », et quand on le regarde en comparaison d'Avatar maintenant, on dit « Oui, ça fait dur », mais ces jeux-là, à l'époque, même si leur apparence visuelle était pas exceptionnelle, la jouabilité, je veux dire aussi à l'époque, les manettes avec lesquelles on jouait étaient pas mal moins... détails évolués, disons qu'on en tirait le maximum.
Tout à fait. Dis-moi donc, dans la liste officielle des 25 chapitres, en fin de compte, le livre est divisé en 25 chapitres, donc 25 jeux, même en allant sur Internet, sur le site des deux auteurs, qui sont Matt Barton et Bill Logridis, ou quelque chose comme ça. Ouais. Le site Internet, c'est armchairarcade.com. Dans la liste des 25, lequel, toi, reste comme ton jeu préféré?
C'est difficile de déterminer entre le chapitre préféré et le jeu préféré.
Oui.
Moi, SimCity, j'avais arrêté d'y jouer depuis un bon moment, mais quand je l'ai vu, j'ai comme fait « Mon Dieu, c'est vrai, j'ai tellement eu du plaisir avec celui-là. » Parmi les jeux, mettons, de la liste, il y a Doom 2, qui est un précurseur des jeux de stratégie en temps réel que j'ai toujours énormément aimé. Mais peut-être Final Fantasy VII, c'est celui auquel j'ai le plus joué parce que le jeu avait une durée de jeu très, très, très longue. Là.
Oui, c'est vrai quand même. Moi, je veux vous dire franchement, vous allez peut-être, tout le monde au studio et même Gabriel, je regardais la liste puis c'est certain qu'un jeu comme Grand Theft Auto 3, ça m'a vraiment marqué. Le John Madden Football, qui n'a pas joué à John Madden quand on aimait beaucoup le football. Moi, le jeu qui m'a vraiment marqué, puis je regardais ça puis j'étais comme, hein, c'est vrai, il me semble que j'ai joué puis j'ai vraiment capoté quand j'ai vu ça, c'est le jeu Myst.
Oui. Oui, c'est ça qui est intéressant avec un livre comme ça, c'est que c'est des styles de jeux qui sont plus ou moins disparus pendant une époque, et que quand on retombe là-dessus, on dit « Mon Dieu, il y avait vraiment... » ça a été important. Il y a aussi là un autre exemple que je donne, le chapitre King's Quest. En fait, on apprend l'histoire du designer du jeu qui était quand même un peu... un rockstar de l'époque. Tu sais, maintenant, dans les jeux vidéo, il y a des, il y a encore des figures marquantes, mais le type, là, je suis en train d'essayer de tourner les pages frénétiquement pour retrouver son nom. Mais c'est une dame, en fait, Roberta Williams, qui était la créatrice des jeux, était aussi connue dans le monde des jeux vidéo que Steven Spielberg l'est au cinéma. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé intéressant.
Oui, vraiment. Puis on parle d'un jeu là, qui date de 1984.
Oui. Il y a aussi toute une... il y a certains chapitres bonus qui sont seulement disponibles sur le web. C'est aussi des jeux qui datent énormément, en fait, certains qui ont été créés avant même que je sois né. Je finirais peut-être en parlant de le chapitre qui m'a, moi, le plus surpris. C'est celui du jeu Zork, qui était, en fait, des jeux dont l'interface était uniquement textuelle et dans laquelle on écrivait les commandes pour se déplacer, etc. C'est un jeu qui est quand même tombé en désuétude à partir du moment où on a une interface intéressante. Mais vers la fin du chapitre, les auteurs font un plaidoyer assez intéressant pour l'interface textuelle en disant que c'est probablement de ce côté-là qu'il faudra aller voir pour une évolution marquante des jeux vidéo. La prochaine révolution viendrait du fait d'avoir justement des narrations interactives beaucoup plus compliquées que ce qu'on a présentement. Là, en ce moment, moi, j'ai pas encore pu jouer, mais j'ai entendu parler du jeu Heavy Rain, où, dans le fond, on a plusieurs trames narratives distinctes. Il faut se rappeler, ça, que c'est quand même quelque chose qui se fait, de la fiction interactive, qui se fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, et que des jeux comme Zork ont un peu permis d'expérimenter une première fois et ont été très élaborés dans cette direction-là, dans cette facette-là du gameplay. Donc, j'ai trouvé intéressant qu'un chapitre se consacre au complet afin de faire comprendre aux joueurs que c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'images et de dessins ou de formes en mouvement que le jeu est ennuyant à jouer, bien au contraire.
Oui, ben vraiment intéressant. Je te remercie beaucoup, Gabriel, d'avoir passé du temps à l'émission aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Donc, on parlait du livre Vintage Games.
Ça m'a fait plaisir, puis je reviendrai vous parler d'autres bouquins éventuellement.
Excellent, merci et bonne fin de journée.
Salut.
Alors, Vintage Games, qui est disponible depuis l'année passée, c'est un volume qui, comme on le disait tout à l'heure, parle des 25 jeux les plus fondamentaux de l'histoire du jeu vidéo. Et si vous pensez que c'est seulement des jeux de console ou des jeux d'ordinateur à la Diablo et tout ça, imaginez donc qu'on parle également de Flight Simulator, donc le simulateur de vol qui fait partie des 25 jeux les plus révolutionnaires du monde de l'histoire du jeu vidéo. Et bien, c'est quasiment la fin de l'émission d'aujourd'hui. On a eu quand même une émission assez chargée, les gars. C'était vraiment intéressant. On a eu la visite de Valérie Harvey, qui est du duo Yume. Ils nous ont interprété deux pièces vraiment magnifiques. Si vous avez la chance d'aller les réécouter sur Internet, ça sera bientôt en ligne sur le site www.puissancemaximum.com. Également Christian, qui nous a parlé en fin de compte de ce fameux gadget pour la PlayStation 3 qui nous permettra de jouer en mouvement comme si on jouait avec une Wii, mais avec des graphiques, en tout cas. Peut-être, souhaitons-le, peut-être un petit peu plus évolué que la Wii. Et nous avons fait le tour d'un débat également avec Francis, dans lequel on se demandait si les suites de jeux étaient tout simplement la poule aux œufs d'or ou si c'était vraiment nécessaire d'en faire.
N'oubliez pas, si vous voulez me contacter, Francis Gaétan Rodrigue sur Facebook, faites-moi part de vos commentaires.
C'est vrai, 30 secondes?
Oui, on a encore quelques instants, oui, oui. Bien sûr.
Juste dire quelques mots sur une nouvelle qui m'a quand même étonné. World of Warcraft, on sait que depuis quelques années, on n'arrête pas de nous vanter les millions et les millions de comptes, n'est-ce pas? Et donc, j'étais resté dans l'impression qu'il y avait, on était rendu à près de 12 millions de joueurs. Là, c'est quand même hallucinant. Mais finalement, le PDG de Blizzard, Mike Morhaime, a révélé récemment que peut-être il y a le chant du cygne, peut-être s'annonce, parce que depuis décembre 2008, il n'y aurait aucune augmentation des inscriptions comme telle. Donc, ça reste stable. Alors, donc, et en plus, 70% des comptes sur les 12 millions environ, là, on dit que 70% des comptes ne dépassent pas le compte d'essai gratuit de 10 jours. Et donc, et même les joueurs stagnent souvent dans ces cas-là au niveau 10 maximum. Ouch! Donc, et les chiffres sont beaucoup plus réalistes à ce moment-là. On arrive à peut-être 3 ou 4 millions de joueurs. Là. Donc, ça me semble beaucoup plus réaliste aussi. Mais en tout cas, moi, ça m'a comme pété une bulle quand j'ai appris ça. J'ai dit, mon Dieu, donc, serait-ce que la fin de WoW d'ici un an ou deux? On verra.
Peut-être, justement, on verra ça. Et bien, c'est la fin de l'émission. Déjà, on entend le thème et on vous souhaite... on remercie également Gabriel avec qui on vient juste de parler. Et on sera de retour la semaine prochaine. Merci, Guillaume Forand, d'avoir été à la console.
Merci, Vincent, l'ennemi.
Hey, ça me fait plaisir. Ben, on est un groupe d'animateurs. Il n'y a pas seulement un animateur ici. C'est Puissance Maximale. Et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D, fighting with the legends of yore. It's D&D, never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm. Woo!